Alléluia. Alors le moment est venu de parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur ce soir. C'est le Seigneur qui a mis ce sujet sur mon cœur parce que ça correspond à un grand besoin et à un grand problème dans le corps de Christ, mais j'aurais aimé avoir toute la nuit pour en parler. Je vais parler du couple chrétien, du couple dans le plan de Dieu. Ce que le couple représente et quel est le modèle que le Seigneur donne dans sa parole pour le couple chrétien. Parce que à mesure que je refaisais cette étude, j'avais le cœur rempli de reconnaissance devant Dieu pour voir à quel point le Seigneur a des plans merveilleux et qu'il veut nous faire entrer dans ses plans pour nous remplir de sa gloire. Et je vois vraiment dans l'Église de Jésus un problème à ce niveau-là. Il y a un problème au niveau des couples chrétiens, il y a un problème au niveau des couples du monde, mais là, les pauvres n'ayant pas l'Esprit du Seigneur et la nouvelle naissance, ils ne peuvent pas rentrer dans le plan merveilleux du Seigneur. Mais là, je veux parler ce soir à l'Église de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, que vous soyez mariés ou célibataires, vous devez connaître de manière claire et précise le plan du Seigneur, le plan que le Seigneur a dans son cœur pour le couple. Dès le départ de la création de l'homme et de la femme, le Seigneur avait un plan pour le couple. Et il désire que ce plan se réalise dans la vie de tous les couples chrétiens. Il y va de la gloire de Dieu, il y va de la gloire de l'Église, et il y va du salut du monde. Et je pèse mes mots, il y va du salut du monde. Si la première cellule de base que le Seigneur a créée, c'est-à-dire le couple, n'est pas dans la perfection de l'amour du Seigneur dans l'Église de Jésus, eh bien je vous dis que le plan de salut pour le monde perdu ne se réalisera pas. Parce que le monde perdu regarde l'Église et le monde perdu regarde les couples chrétiens dans l'Église. Et quand il voit le monde, quand il voit les désastres qui se passent dans le monde, dans les couples qui ne sont pas chrétiens, le taux de séparation, le taux de divorce, de drame, dans le monde, les gens ont besoin de l'amour du Seigneur. Il y a tant d'enfants qui ont vécu des drames dans les couples de leurs parents, tant de problèmes au niveau de ce monde perdu, tant de détresse qui dure la vie durant que le monde a les yeux fixés sur les couples chrétiens pour voir enfin une solution. Et nous devons avoir la conscience de nos responsabilités de chrétiens devant le Seigneur et devant le monde et devant l'Église. Et nous atteler à la tâche ensemble de manifester la gloire de Dieu dans nos couples, comme Dieu le veut, pour que nous puissions vraiment répondre aux besoins du cœur du Seigneur. Amen. Alléluia. Alors nous allons voir ce que le Seigneur avait dans son cœur quand il a créé l'homme et la femme. Dieu n'a pas voulu créer un être unique, un sexe unique sur la terre. Il a voulu créer d'abord un homme. Et puis, il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Le pauvre, il était tout seul, là, dans cette belle création. Et le Seigneur a voulu lui donner une aide semblable à lui-même. Et il a créé la femme pour que l'homme et la femme s'aiment, fassent une seule chair, croissent et se multiplient pour remplir la terre, d'enfants à leur image, fait à l'image du premier couple initial qui a été créé dans la perfection, pour que la terre soit remplie de la gloire de Dieu par tous ceux qui allaient être procréés par l'homme et la femme que Dieu avait créé au début. Est-ce qu'on peut imaginer ce qu'aurait été la terre si le péché n'était pas rentré dans la vie du premier couple et si la terre avait été peuplée d'êtres parfaits comme Adam et Ève au début, où il n'y aurait eu ni péché, ni maladie, ni mort, ni désastre, ni rien. Ça aurait été le paradis sur terre. C'est vraiment ce que le Seigneur voulait dans son cœur. Dans Genèse 2, on va commencer par le livre de la Genèse. Mais vous savez que le Seigneur est puissant pour restaurer ce qui a été détruit. Alléluia. Et pour nous faire enfin entrer dans ses plans parfaits. Dans Genèse 2, au verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et un peu plus loin, au verset 21, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Je suis sûr que Dieu devait être fier de ce qu'il venait de faire. Heureux de ce qu'il venait de faire. Amen.
Amen.
Alléluia. De créer un homme et une femme parfaite et d'amener cette femme devant l'homme qu'il a créé. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Tu vois, homme, mari chrétien, comment le Seigneur te demande de considérer ta femme os de tes os, chair de ta chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Ça ne veut pas dire qu'il le quittera en mauvais termes et se disputera avec. Non, il quittera simplement. Il y a un temps où l'homme doit quitter son père et sa mère, où les parents doivent lâcher leurs enfants et s'attachera à sa femme. S'attachera à sa femme. Il n'est pas dit d'abord que c'est la femme qui doit s'attacher à l'homme, c'est l'homme qui doit quitter son père et sa mère et c'est l'homme qui doit s'attacher à sa femme. C'est lui qui a la responsabilité première de s'attacher à sa femme. C'était ça que Dieu voulait au départ. Et ils deviendront une seule chair. Et il y a un rapport de cause à effet dans ces deux choses. Devenir une seule chair dans le plan de Dieu, ce n'est pas simplement avoir des relations sexuelles. C'est devenir unis, absolument unis, comme Christ est uni à l'Église. Devenir une seule chair, ça veut dire que parce que l'homme s'est attaché par amour à sa femme, ils vont pouvoir vraiment être unis et former un seul corps, un seul esprit. Il y a là un grand mystère parce que Dieu veut cette même relation entre son fils Jésus-Christ et l'épouse qu'il a préparée pour lui, qui doit être sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais vous voyez que la responsabilité, Dieu la met en premier sur le mari, l'homme, qui doit s'attacher à sa femme. Alléluia. Dans Genèse 3, on voit, hélas, le péché entrer dans le cœur de la femme et dans le cœur de l'homme. Et vous savez que le péché, c'est la désobéissance à la parole du Seigneur, c'est la rébellion. Et avec le péché sont entrés l'égoïsme, l'orgueil, la rébellion. L'homme et la femme ont été coupés du Seigneur et de son plan. Et ils sont entrés dans le plan de Satan qui était de détruire tout ce que Dieu avait créé. Et dans Genèse 3, il est dit, après que le péché ait été consommé, c'était un péché qui était provoqué par la séduction d'Ève, qui a été séduite par les paroles doucereuses du serpent, et par la désobéissance d'Adam, qui lui n'a pas été séduit, mais qui lui a voulu accompagner sa femme dans le péché. La femme a été séduite, elle a proposé le fruit à son mari, qui l'a mangé en connaissance de cause. Il ne voulait pas perdre sa femme, mais il a préféré sa femme au Seigneur. Et à cause de ça, tous les deux sont tombés dans le péché et dans la mort. Et dans Genèse 3 et au verset 15, le Seigneur annonce déjà son plan de salut. Et ce plan de salut devait aussi passer par la femme et la postérité de la femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Nous savons quelle est la postérité de la femme. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est né d'une femme, d'une vierge, qui est né par la puissance du Saint-Esprit dans le corps d'une femme. Il a été formé dans le corps de Marie d'une manière surnaturelle par le Saint-Esprit, pour que la postérité de la femme écrase la tête du serpent. Mais là encore, il a fallu une femme pour que le plan du Seigneur se réalise. C'est la femme qui a commencé à pécher, et c'est par la femme que le salut est venu, par la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Vous voyez que dès le départ, le Seigneur montre, on va le voir en détail, que dans le couple homme-femme, le Seigneur a prévu qu'il y ait un certain type de relation qui soit entièrement fondée sur l'amour et qui soit une relation qui ressemble à celle de Christ et son Église. Lorsque le péché est venu, cette relation d'amour a été brisée. C'est l'orgueil, la violence, l'égoïsme et le meurtre qui sont rentrés. Donc à partir de là, tout le plan du Seigneur a été complètement déformé. On verra aujourd'hui, je le verrai à la fin du message avec vous, comment ce plan initial du Seigneur et ce plan idéal que nous allons voir dans le Nouveau Testament, comment le Seigneur définit dans la nouvelle naissance et dans le corps de Christ les relations qui doivent exister entre mari et femme, qui sont celles qu'il avait au début dans son cœur. Et on va voir comment, en restaurant ce plan que Dieu avait dès le départ, nous allons pouvoir vraiment glorifier Dieu dans l'Église et dans ce monde. Mais dans le monde qui nous entoure, la relation que Dieu avait dans le cœur est complètement pervertie par le péché. C'est complètement à l'envers de ce que Dieu avait prévu. Dans Genèse 2 et au verset 24, je rappelle la fin du verset 24. L'homme s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Une seule chair, ça veut dire un seul corps. Il y a un mystère là, parce que le Seigneur Jésus dit lui-même, ils ne seront plus deux, mais un seul corps. Alors pour nous, ça peut nous paraître bizarre que deux êtres qui sont séparés physiquement puissent devenir un seul corps, mais Dieu le dit, à partir du moment où l'homme s'attache à sa femme et il s'engage avec elle dans une relation d'amour, de mariage, d'engagement réciproque, il se produit une union qui, pour Dieu, est égale à une unité de corps dans la chair. Ils sont aussi indissociables que les membres de ton propre corps sont indissociables de ton corps. Il faut voir ça comme ça. Quand un homme s'engage dans la relation du mariage avec une femme devant le Seigneur, ou même en dehors du Seigneur s'il ne sait pas, mais en tout cas en tant que couple chrétien, nous devons comprendre que cette relation est aussi indissoluble que celle des membres de ton propre corps avec ton tronc, le reste de ton corps. Pour Dieu, c'est ça. Jésus le dit, ils ne sont plus deux, mais un seul corps. Il ne dit pas, il ne se contente pas de dire un seul esprit. Ça va jusqu'à la relation du corps. Et cela est matérialisé dans la relation sexuelle. Il se passe, lorsqu'il y a relation sexuelle, une union du corps qui fait que le mari et la femme forment une seule chair pour Dieu et une relation indissoluble est conclue à ce moment-là. C'est pour la vie. Dans l'esprit du Seigneur, c'est pour la vie. Est-ce que dans l'esprit des couples chrétiens aujourd'hui, cette vérité est profondément ancrée? C'est pour la vie. C'est pour la vie. Quand on voit le taux de séparation et de divorce dans l'Église de Jésus-Christ, on peut se poser la question. Vous voyez, parce que les problèmes n'ont pas été résolus par l'Esprit du Seigneur, dans l'amour du Seigneur, comme le Seigneur le veut, dans un esprit de don de soi, de sacrifice, etc. Quand on n'a pas compris quel est le plan du Seigneur, on s'engage dans des relations qui n'ont plus rien à voir avec ce plan et ça finit par des séparations, des divorces. On n'a plus rien à se dire et après un temps on se sépare tout en restant chrétien. Alors, je vais voir avec vous d'abord quel est le plan idéal du Seigneur pour le couple. Hein, c'est vraiment le modèle biblique. Vous savez que la parole est un miroir. Donc, quand on voit le plan du Seigneur pour le mari et pour la femme dans le couple chrétien, on a devant soi un miroir et on peut se regarder à l'image de ce miroir et comparer notre relation personnelle de couple ou de futur couple. Si on parle à des jeunes qui ne sont pas encore mariés, par exemple, ou à des célibataires que Dieu destine au mariage, il faut que dans les cœurs, il y ait une claire compréhension de ce que Dieu veut comme plan parfait. Quand on l'a compris, on va faire tous nos efforts pour entrer dans ce plan et l'appliquer dans nos vies. Mais il faut d'abord le recevoir par une claire révélation du Seigneur. Alors, qu'est-ce que Dieu veut dans ce couple que Dieu a créé pour être uni pour toujours, enfin, pour toujours sur la terre? Parce que dans le ciel, ça ne sera plus le même type de relation. Le Seigneur a commencé par l'homme, le mari. Il a créé d'abord le mari et l'homme. Donc, c'est sur lui que repose la plus lourde responsabilité. En général, quand ça ne va pas dans un couple chrétien, les responsabilités sont toujours partagées. C'est jamais du 100% d'un côté et du 0% de l'autre. Mais je n'hésite pas à dire que la plus lourde responsabilité, celle que Dieu fait peser en priorité sur les épaules du mari, c'est celle-là la plus lourde. C'est lui qui est responsable en premier lieu de la bonne marche de son foyer et de son couple. C'est lui que Dieu rendra responsable en premier de la bonne marche de son couple. Ça ne veut pas dire que la femme n'a aucune responsabilité, elle en a beaucoup. Mais la première responsabilité revient au mari. Pourquoi? Parce qu'il a été créé le premier pour le Seigneur. Il est le chef, chef au sens tête. Hein, rappelez-vous que chef, ça veut dire tête. Un couvre-chef, c'est un couvre-tête. Donc quand Dieu a créé l'homme le premier, pour en faire le mari de cette femme qu'il a créée en second, il l'a créée pour être le chef, mais un chef semblable au chef que Dieu lui-même est. Dieu est le chef suprême. Jésus-Christ est le chef de l'Église. Jésus est le chef suprême de son Église. Donc le modèle du mari, c'est Dieu lui-même, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et quand on parle donc de chef, on ne doit pas avoir à l'esprit l'image déformée du chef que le monde a créé indépendamment du Seigneur, c'est-à-dire soit un chef tyrannique, soit un chef qui a tous les défauts et qui n'a aucune des qualités du Seigneur, mais on doit penser, quand on parle de chef, au modèle qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons quel a été l'amour de Jésus pour son Église, quel a été le sacrifice qu'il a accompli pour elle, mais quelle est aussi la fermeté du Seigneur Jésus dans son attitude vis-à-vis de l'Église. C'est lui qui la dirige. C'est lui qui l'a bâti, c'est lui qui l'a construit, c'est lui qui lui donne les impulsions, c'est lui qui lui donne la vie. Tel doit être le mari envers son épouse. Alors commençons par le mari. Je vais commencer par lire le chapitre 5 d'Éphésiens, Éphésiens 5, et au verset 25. Marie, aimez vos femmes. Voyez-le, comment le Seigneur commence à parler au mari. Donc, ce qu'il y avait au début, quand le Seigneur disait le mari s'attachera à sa femme, c'est exactement ça que le Seigneur avait dans le cœur. Marie, aime ta femme. De l'amour du Seigneur Jésus, de l'amour agapé, pas de l'amour humain qui est égoïste, qui est revendicatif, qui est personnel, qui est vengeur, non, de l'amour du Seigneur Jésus. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Il reparle encore de cette relation corporelle. Ça veut dire que comme ta femme est aussi étroitement unie à toi que ton propre corps, et que tu prends bien soin de prendre soin de ton corps en tant qu'homme, eh bien le Seigneur te demande de prendre le même soin de ta femme, parce qu'elle est membre de ton corps, et parce qu'elle a avec toi une relation semblable à celle de l'Église envers le Seigneur. Alors, si je relis à partir du verset 25, en remplaçant Christ par mari et Église par épouse, eh bien, ça donne ceci. Le mari s'est livré lui-même pour sa femme, pour la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau de la parole, pour la faire paraître, son épouse, devant lui, comme une épouse glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Vous voyez la responsabilité du mari. Alors, mari, là je parle au mari, comment pouvons-nous espérer faire une telle chose si nous-mêmes nous ne sommes pas en union étroite avec le Seigneur, si nous-mêmes nous ne sommes pas saints, irréprochables, sans rides ni taches? Est-ce que quelqu'un qui a des rides et des taches peut amener une autre personne à la perfection alors qu'il a lui-même des rides et des taches? C'est impossible. Donc vous voyez la responsabilité que le Seigneur met sur les épaules du mari. En fait, ce que le Seigneur veut dire au mari, il dit, Marie, commence par avoir, toi, avec le Seigneur, une relation d'intimité, une relation personnelle qui fait de toi un mari saint, pur, irréprochable, sans ride ni tache. Et étant dans cette situation-là, semblable à Christ, tu vas travailler pour ton épouse, pour l'aider à devenir sans ride ni tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ce que le Seigneur demande au mari. Quand je sens le Seigneur me parler comme ça, à moi, Marie, je me prosterne devant le Seigneur et je dis, Seigneur, je me repens. Je me repens parce que bien souvent, je n'ai absolument pas été comme ça vis-à-vis de mon épouse. Et je n'ai pas compris le plan que tu avais dans ton cœur. Si tu voulais que moi, j'ai avec mon épouse cette relation de soutien constant pour l'amener à la perfection, c'est que tu voulais que moi, j'ai avec toi cette relation de perfection aussi, dans ma relation avec toi, être rempli de ton Esprit Saint, de ton amour, de l'Esprit de Christ qui s'est donné pour son épouse, son Église, qui a été jusqu'à la mort de la croix. Et vous savez ce que c'est la mort de la croix pour nous? C'est la crucifixion de la chair, c'est le renoncement à nos intérêts personnels, c'est le renoncement à tout notre égoïsme d'homme personnel, c'est le renoncement à tout ce qui fait la vie de la chair pour dire, eh bien Seigneur, je veux être rempli de l'esprit de sacrifice de Jésus-Christ pour tout donner pour que ma femme grandisse et devienne parfaite devant toi. Donc, en tant que mari, je ne dois avoir en tête que cet objectif-là, Seigneur, si tu as permis que j'aie avec mon épouse cette relation conjugale, c'est parce que dans ton cœur, tu veux te servir de moi pour l'amener à la sanctification parfaite, à la perfection. Bien sûr, si une femme chrétienne a un mari qui ne correspond pas à cet idéal, un mari charnel, elle a dans sa relation personnelle avec le Seigneur Jésus la capacité d'arriver, elle, à la perfection, mais avec tellement plus de combats, tellement plus de souffrances, tellement plus de difficultés, alors que le Seigneur avait mis à ses côtés un mari qui devait être un modèle selon le Seigneur pour l'aider dans la joie et dans la paix à atteindre la perfection. Je relis la suite de ce chapitre 5, là au verset 29. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. C'est vrai. Jamais personne n'a haï sa propre chair. On prend tellement soin de soi-même. Mais si tu comprends que ta femme est une partie de ta chair et de ton corps, en prenant soin de ta femme, tu prends soin aussi de toi. Il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Christ est merveilleux pour l'Église. Il bâtit l'Église, il la nourrit, il l'a baptisée de son esprit. Il pourvoit à ses besoins, il répond à ses cris. Il est toujours là présent chaque jour jusqu'à la fin du monde. Il est la tête de l'Église qui est son corps, de même que le mari est la tête de son couple et de son foyer. Et c'est ainsi que je dois aimer ma femme, je dois la nourrir et en prendre soin. Vous voyez que dans le modèle biblique, la responsabilité de nourrir sa femme et d'en prendre soin repose sur les épaules du mari. Et ça va à la fois de la nourriture matérielle, de pourvoir aux besoins matériels, financiers, etc. de sa femme. Ça va jusqu'à la nourriture de l'âme, c'est-à-dire l'amour que je peux lui donner, la compréhension, le caractère de Christ que je manifeste envers elle. Ça va aussi dans la nourriture spirituelle, parce que le mari est le chef spirituel de son foyer. Ça va dans le fait de l'aider à comprendre la parole, ça va dans le fait de prier, d'intercéder pour elle, pour qu'elle grandisse dans le Seigneur. Un travail de sacrificateur devant le Seigneur. Il la nourrit et en prend soin dans tous les domaines de l'esprit, de l'âme et du corps. Est-ce que je fais cela en tant que mari? Est-ce que tu fais cela en tant que mari, chrétien qui m'entend? Est-ce que tu nourris ta femme? Est-ce que tu en prends soin comme tu prends soin de ton propre corps? Est-ce que tu la nourris quand elle a faim? Quand elle a faim de tendresse, quand elle a faim de compréhension, quand elle a faim d'amour, quand elle a faim d'écoute simplement, est-ce que tu la nourris? Est-ce que tu réponds à son besoin? Est-ce que tu es capable même de discerner quand il y a ce besoin? Comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. J'ai eu l'occasion d'attirer votre attention sur ce verset. Mais nous sommes membres de la chair et des os de Christ en tant que chrétiens nés de nouveau, membres de l'Église de Jésus. Il y a avec Jésus-Christ une relation de chair et d'os entre lui et nous, qui est exactement la même que la relation de chair et d'os entre mari et femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Mais Dieu révèle ces mystères à son Église. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc vous voyez que chaque fois qu'il y a un problème dans un couple, c'est un problème entre l'Église et le Seigneur. Toute mauvaise relation au sein d'un couple, eh bien c'est une mauvaise relation entre le Seigneur et son Église. Parce qu'il y a exactement la même relation entre Christ et l'Église, Christ qui est l'époux, le mari, et l'Église qui est son épouse. Il a voulu refaire au niveau du couple le même type de relation. Donc vous voyez à quel point la construction de l'Église commence par le couple. La construction de l'Église commence par le couple. Il faut qu'on ait cette vérité bien plantée en tant que mari et femme dans notre esprit. N'essayons pas de courir la terre pour évangéliser le monde et amener des âmes à Christ si notre foyer n'est pas droit devant Dieu. En tant que foyer chrétien, hein, je parle. Commençons par le début. Je préférerais qu'on arrête toute évangélisation, tout témoignage personnel, quoi que ce soit envers ceux du monde, et qu'on passe le temps nécessaire à régler, à nous repentir de nos problèmes de couple, parce que ça ne doit pas prendre des années pour se repentir. Ça ne doit pas prendre des années. Mais pour moi, c'est une abomination de voir un couple chrétien qui ne va pas, qui n'a pas réglé ses problèmes devant Dieu, dans la repentance et dans l'amour du Seigneur. C'est une abomination que de voir ces couples-là oser aller à l'église, chanter des cantiques, évangéliser, attirer des âmes au Seigneur, alors que ce que le Seigneur leur demande en premier n'a pas été réglé au sein du couple. Et c'est un contre-témoignage parfait que nous donnons au monde et que nous donnons à l'église. Alors attention, je ne veux pas dire qu'il faut absolument être parfait dans le couple pour commencer à faire quelque chose en dehors, mais je dis simplement, il faut nous repentir des choses qui ne vont pas. C'est la base du cheminement vers la perfection. Donc si nous voyons manifestement qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre relation de couple, le Seigneur nous demande de nous en repentir l'un devant l'autre et devant le Seigneur, et de crier à lui pour qu'il nous remplisse de son esprit et de son amour. En continuant à cheminer jusqu'à la perfection du modèle chrétien. Un grand mystère. Révèle-nous ce mystère, Seigneur, du Christ et de l'Église, et de l'époux et de l'épouse. Je relis dans 1 Corinthiens 6, verset 15. « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ. Nos corps à tous sont des membres de Christ. Comme ta femme, elle est membre de ton corps. Prendrais-je donc des membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? » Il parlait là à des chrétiens qui osaient aller fréquenter des prostituées ou aller forniquer à l'extérieur de leur couple. « Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. » Vous voyez que Dieu réserve la relation sexuelle uniquement au mari et à son épouse. Parce que c'est dans cette relation-là qu'ils deviennent vraiment une seule chair. Et s'il y a fornication à l'extérieur du mariage, eh bien il y a formation d'une seule chair en dehors de la volonté de Dieu, c'est une abomination pour Dieu. Il réserve ce type de relation au mariage. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, un seul corps avec le Seigneur, un seul esprit avec le Seigneur quand je m'attache à lui. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Écoutez bien ceci. Souvent on me l'a reproché, on m'a dit « Oh toi Henri, tu mets trop l'accent sur l'adultère, etc. Tu considères que c'est trop grave, plus grave que d'autres péchés, mais... » Les autres péchés sont aussi graves, le vol, le mensonge, etc. Bien sûr, pour Dieu, tous les péchés sont graves. Mais là, le Seigneur lui-même dit que la fornication et l'adultère, c'est un péché plus grave que les autres. Il explique pourquoi. Il dit ceci. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps. Ça veut dire tous les autres péchés que l'adultère et la fornication sont hors du corps. Tandis que l'adultère et la fornication sont des péchés dans le corps. Et c'est ça qui brise la relation de corps entre mari et femme directement. Bien sûr, Jésus dira, ça commence dans le cœur. Hein. Si tu convoites une femme dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Mais ça n'a pas été consommé encore dans la chair. Donc il y a eu bien péché d'adultère, mais ça n'a pas été consommé dans la relation qui fait une seule chair. Tandis que lorsque l'adultère est consommé ou la fornication en dehors du lien du mariage, celui qui se livre à l'impudicité, donc à une relation sexuelle en dehors du mariage, pèche contre son propre corps. Donc ça ajoute au péché une dimension supplémentaire que les autres. Pourquoi ? Il parle à des chrétiens là. Hein. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même ? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Est-ce qu'on peut imaginer ce que ça peut être pour le Saint-Esprit qui habite dans un corps ? De voir son enfant en train de commettre l'adultère et la fornication dans son corps, qui est le temple de son esprit, et que Dieu, qui est là par son esprit présent dans son corps, est obligé de subir cette abomination qui est l'adultère et le péché dans le corps, dans un autre corps, là sous ses yeux, dans ce même corps dont il est le temple. Il faut que le Seigneur nous montre à quel point, bon, tout péché est grave pour le Seigneur, mais celui-là, ça dépasse les bornes, parce que ça va directement contre le plan initial que Dieu avait d'union dans la chair d'un homme et d'une femme, où Dieu se manifestait dans ce saint temple. Dieu prend la peine aujourd'hui de venir dans le temple du corps de l'homme, dans le temple du corps de la femme, et c'est pour ça une raison supplémentaire de rester unis, corps, chair, âme et esprit, pour que vraiment le Seigneur soit glorifié dans cette relation. Et les chrétiens qui n'ont pas été enseignés dans ce domaine et qui ne règlent pas leurs problèmes de couple et qui divorcent et qui se remarient, en fait, vous voyez qu'il se passe à ce moment-là quelque chose qui déshonore au plus haut point le Seigneur. Aucun péché, sauf le péché contre le Saint-Esprit, n'est un péché impardonnable. Hein. Donc, quand j'enseigne ces choses, je ne l'enseigne pas dans un esprit de jugement parce qu'il y a tellement de situations difficiles dans des couples qui arrivent déjà du monde, dans des problèmes qui sont inextricables, qui arrivent dans le salut et dans le corps de Christ, avec un passé déjà bien lourd et bien chargé, et qui arrivent là et qui ne sont pas enseignés dans la vérité du Seigneur, et qui entrent dans des relations que le Seigneur n'avait pas voulu. Mais nous avons un Dieu miséricordieux et compatissant, et si nous avons conscience de ce que le Seigneur nous révèle, et de son plan, et que nous apportons nos péchés au Seigneur en disant, Seigneur, tu vois, je suis complètement passé à côté, je ne savais pas, j'étais dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Quand j'étais dans le monde, comment voulais-tu que je sache? Et puis quand j'étais dans ton église, on ne m'a pas enseigné dans la vérité. On m'a conseillé même de divorcer, on m'a conseillé de changer des partenaires. Et, Seigneur, et moi j'ai reçu ça et je n'ai pas passé un temps suffisant pour connaître ta volonté. Donc Seigneur, je te demande pardon. Le Seigneur donne son pardon. Et le Seigneur est capable de restaurer ce qui a été brisé et de nous faire entrer dans ce qu'il a prévu pour restaurer son plan initial. Donc là, quand je prêche ceci, ne prenez pas ce qui est dit de ma part comme un jugement contre vous si vous êtes divorcé, remarié ou si vous avez eu des problèmes de ce genre dans votre existence passée. Mais prenons simplement ce que je dis comme un exposé de la volonté parfaite du Seigneur, pour pouvoir nous comparer à ce modèle parfait et nous efforcer d'y entrer une fois que nous l'avons connu. Je ne vais pas prêcher sur le divorce et le remariage, hein, mais ce que j'ai dit là devrait suffire à montrer à quel point le Seigneur a de la haine contre l'adultère, le divorce et le remariage. Le Seigneur a de la compassion et de la miséricorde pour ceux qui ont été confrontés à ces problèmes dans leur vie sans le connaître. Mais il faut savoir que le Seigneur ne veut pas de ces choses. Et le Seigneur veut que ses enfants aient une claire conviction de la volonté parfaite du Seigneur pour pouvoir, dans l'Église déjà, l'enseigner aux jeunes qui arrivent, l'enseigner à ceux qui entrent dans l'Église et qui ne sont pas encore mariés, enseigner ces choses pour que l'Église marche droit et glorifie le Seigneur. Et moi, je rencontre trop de chrétiens, trop de serviteurs de Dieu qui n'ont aucune conviction sérieuse et précise dans ce domaine, ou qui ont une conviction légère en disant « Oui, je sais qu'en théorie, dans la parole, c'est vrai ce que tu dis, mais dans la pratique, ça ne marche pas, donc il faut beaucoup d'indulgence, il faut beaucoup de compassion pour les cas particuliers. » Je refuse ce type de raisonnement-là, c'est un simple compromis avec la parole du Seigneur. En tant que serviteur du Seigneur, on doit annoncer ce que le Seigneur dit, que le mariage est une relation sacrée, unique, indissoluble pour la vie, et qu'une fois qu'on s'est engagé dans cette relation de mariage, quand on vient au Seigneur, il nous donne par son esprit tous les moyens nécessaires pour faire de cette relation-là une relation parfaite. Même si au départ, il n'y avait pas l'amour véritable, même si au départ, on a l'impression qu'on s'était trompé dans son choix, eh bien, le Seigneur, quand on vient à lui, est capable de mettre dans nos cœurs tout ce qu'il faut pour que cette relation devienne une relation parfaite. Alléluia. Dans 1 Pierre 3, verset 7, toujours pour les maris. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Là, il veut dire plus faible de nature, et ce n'est pas péjoratif dans la parole du Seigneur. Plus faible, ça veut dire plus sensible, plus émotive, plus facile à troubler. Le Seigneur dit, montrez, Marie, de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Il parle de la sagesse d'en haut, de la sagesse du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que la sagesse du Seigneur ? La sagesse, ça veut dire savoir ce qu'il faut faire au bon moment. C'est ça que ça veut dire en langage simple. Dieu veut que je sois, en tant que mari, toujours rempli de sa sagesse pour savoir comment me comporter avec ma femme dans toutes les circonstances. Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour faire telle et telle chose. Le Seigneur me demande d'être rempli de sa sagesse pour savoir comment je dois me comporter dans mes relations avec ma femme. Bien souvent, j'ai manqué de sagesse. Bien souvent, j'ai fait un reproche alors qu'il fallait faire aucun reproche. Il fallait l'encourager ou attendre que le moment soit favorable pour faire un reproche dans l'amour du Seigneur. Il y a donc une sagesse, Marie, à recevoir du Seigneur pour que tu aies avec ta femme de bons rapports. Il parle des rapports. Donc, je tiens le mari, et j'en suis un, responsable en premier lieu des mauvais rapports dans le couple. C'est que tu as manqué de sagesse dans tes rapports avec ta femme. Alors évidemment, il peut y avoir des cas extrêmes. Tu peux avoir un mari qui est le plus saint des saints, un petit agneau parfait, et puis une femme qui est un véritable dragon. Mais même là, et surtout là, il a besoin de toute la sagesse du Seigneur. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Ta femme, Marie, chrétien, elle reçoit la même grâce que toi d'hériter de la vie éternelle, aussi abondante que la tienne. Le Seigneur ne va pas mesurer sa vie à la femme parce qu'elle est venue après l'homme ou qu'elle est l'aide du mari. Pas du tout. Le Seigneur a, pour le mari comme pour la femme, la même vie abondante. Une place différente pour l'un et pour l'autre, n'empêche absolument pas à la femme d'avoir la même vie que celle de son mari. Elle doit hériter de la même vie. Donc, puisqu'elle doit hériter de la même vie, qu'elle a en elle le même Seigneur, tu dois l'honorer, d'abord parce que Jésus habite dans son cœur, si elle est chrétienne, si elle est née de nouveau. Mais même si elle n'est pas chrétienne, tu l'honores parce que c'est ta femme. Et c'est comme ça que tu la gagneras au Seigneur. Honore-la! Qu'est-ce que ça veut dire « honorer » ? Ça veut dire « rendre honneur ». Rendre honneur. Ça veut dire ne pas la mépriser en privé ou en public, ne pas la rabaisser, au contraire l'élever. Ça veut dire ne pas insister sur ses défauts devant les autres. Ça veut dire ne pas lui faire une remarque acerbe ou critique pour dévoiler ses faiblesses devant les autres. Si on fait cela, on la déshonore.